sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 27 octobre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Edressa Sedoulia. Tout d'abord, les titres. Le Burkina assure n'avoir aucune intention d'inviter les forces russes de Wagner, selon la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland. Elle affirme aussi que la sécurité s'est fortement dégradée au Mali depuis l'arrivée de Wagner. Et puis, mise en garde des États-Unis contre un risque d'attentat à Johannesburg en Afrique du Sud. Human Rights Watch demande une enquête indépendante après les manifestations sanglantes au Tchad. L'ONU relativement optimiste sur une prolongation de l'accord de la mer Noire sur les exportations de céréales ukrainiennes. La France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie vivement préoccupés par les tensions dans les territoires palestiniens occupés. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a assuré aux diplomates américains qu'il n'avait aucune intention d'inviter les forces russes de Wagner à combattre les groupes terroristes dans son pays. C'est ce qu'a déclaré hier la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland. Le point avec Abdourahman Dia.
Nous avons eu la chance de nous asseoir avec le président par intérim Ibrahim Traoré et son équipe, y compris son ministre de la Défense. Il était sans équivoque en disant que seuls les Burkinabés défendraient leur pays. Ils n'ont pas l'intention d'inviter Wagner, a-t-elle déclaré. Selon l'officielle américaine, qui vient de rentrer d'une tournée en Afrique de l'Ouest, la sécurité s'est détériorée depuis l'arrivée de Wagner au Mali. Des violations des droits humains ont été commises et les casques bleus mis sous pression. Victoria Nuland a déclaré que les incidents terroristes ont augmenté d'environ 30% au cours des 6 derniers mois au Mali, alors que les équipements russes souffrent de dysfonctionnement, citant un appareil militaire de fabrication russe qui s'est écrasé dans la ville de Gao le 4 octobre dernier. La capacité des États-Unis à aider le Mali sur la sécurité est fortement impactée, a-t-elle reconnu. Elle a averti que l'insécurité pourrait remettre en cause la transition dans ces deux pays.
L'ambassade américaine en Afrique du Sud a fait circuler mercredi une alerte prévenant d'un risque d'attentat terroriste samedi contre de grands rassemblements dans le nord de Johannesburg. Ce que Pretoria n'a pas confirmé dans l'immédiat. Notez que plus de 1000 soldats sud-africains aident depuis juillet 2021 le Mozambique voisin à combattre des groupes armés djihadistes qui sèment la terreur depuis 5 ans, faisant 4 300 morts et 1 million de déplacés. Rappelons aussi que lundi, plusieurs ambassades occidentales, dont celle des États-Unis, avaient averti d'une menace accrue d'attaques terroristes au Nigeria. Human Rights Watch demande aux autorités tchadiennes une enquête indépendante après les manifestations violentes réprimées au Tchad qui ont fait une 50aine de morts la semaine dernière. C'est ce qui ressort d'un communiqué de cette ONG de défense des droits de l'homme publié hier mercredi. Le point avec Nani Talani.
Les forces de sécurité ont tiré sur les manifestants dans plusieurs villes du Tchad, y compris N'Djamena, la capitale, écrit Human Rights Watch, évoquant des manifestants passés à tabac et des centaines d'arrestations pendant et après les manifestations organisées par l'opposition le 20 octobre. L'ONG demande l'ouverture d'une enquête indépendante et effective pour déterminer si le recours à la force létale par les services de sécurité était une réponse justifiée et proportionnelle à toute prétendue violence. L'ONG affirme ne pas être en mesure de confirmer de sources indépendantes la mort des membres des forces de l'ordre, comme le soutiennent les autorités. L'organisation exhorte le gouvernement de transition de s'assurer que ses forces de sécurité s'abstiennent de recourir à une force injustifiée et disproportionnée lors de manifestations et respectent les droits fondamentaux à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté, ainsi que les droits de réunion et de manifester pacifiquement. L'ONU et l'Union africaine ont de leur côté souligné l'obligation de N'Djamena de mener des enquêtes impartiales, rapides et efficaces. Elle condamne aussi la répression létale des manifestations, faisant part de leur profonde préoccupation sur les allégations de centaines d'arrestations arbitraires.
Ce n'est pas juste des engrais, des fertilisants ou des céréales dont l'Afrique a besoin. L'Afrique aussi porte la paix et veut rapprocher ses deux pays frères, l'Ukraine et la Russie. C'est ce qu'a déclaré hier le Bissau-Guinéen Oumarou Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, lors d'une visite en Ukraine, la première à Kiev d'un président africain depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février. M. Embalo a rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky au lendemain de sa rencontre en Russie avec le président Vladimir Poutine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, s'est dit relativement optimiste mercredi quant à la prolongation de l'accord qui permet les exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre, optimisme tempéré par la Russie qui a insisté sur ses revendications. Près de 9 millions de tonnes de céréales ont ainsi été exportées, soulageant la crise alimentaire mondiale provoquée par le conflit. Mais les incertitudes autour de la prolongation de l'accord ont déjà fait remonter les prix de certains produits. Le président russe Vladimir Poutine a supervisé mercredi l'entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire au moment où Moscou a répété à l'Inde et à la Chine ses allégations sur la préparation par l'Ukraine d'une bombe sale. Kiev, qui dément toute velléité d'utiliser une telle arme, et ses alliés occidentaux redoutent que de telles accusations ne servent de prétexte à Moscou pour une escalade du conflit ou l'utilisation d'armes nucléaires dont les responsables russes ont brandi la menace à plusieurs reprises. La France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie se sont déclarés mercredi soir vivement préoccupés par les tensions dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est. Ces quatre pays occidentaux appellent à éviter toute provocation et toute escalade de la violence, Mohamed Houmfa.
En 2022, plus de 120 Palestiniens et 20 Israéliens ont été tués et beaucoup d'autres blessés. Nous sommes également très préoccupés par la montée des violences, y compris de la part des colons israéliens, ont fait savoir les quatre pays par le biais d'un communiqué commun de leur ministère des Affaires étrangères. Dans ce contexte, il est désormais crucial d'éviter toute nouvelle escalade, poursuit le communiqué. Les tensions actuelles nous rappellent le besoin impérieux de reprendre les efforts politiques pour concrétiser la solution à deux États, seule solution à même de garantir de manière permanente aux Israéliens et aux Palestiniens la possibilité de vivre dans la paix et la sécurité, affirment encore les quatre pays. Tout en reconnaissant à Israël le droit de se défendre, les quatre pays estiment que le pays doit le faire dans le respect du droit international et du droit humanitaire. Les violences se sont accrues ces derniers mois dans le nord de la Cisjordanie. Les forces israéliennes multiplient des raids qui ont fait plus d'une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de 7 ans, selon l'ONU.
Les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu mercredi, selon une ONG, sur des manifestants rassemblés dans la ville d'origine de Mahsa Amini, où des milliers de personnes avaient assisté à une cérémonie d'hommage à la fin du deuil traditionnel de 40 jours. La jeune iranienne est décédée 3 jours après son arrestation par la police des mœurs, pour non-respect du code vestimentaire strict de la République islamique, dont le port du voile pour les femmes. Par ailleurs, au moins 15 personnes ont été tuées mercredi dans la ville méridionale de Shiraz lors d'un attentat perpétré dans le principal sanctuaire musulman chiite du sud de l'Iran et revendiqué par le groupe djihadiste État islamique.
La Minute Éco, Nathalie Barge. Selon le directeur du Fonds gabonais d'investissement stratégique, Hakim Daouda, le Gabon va émettre des obligations entre 100 et 200 millions de dollars pour investir dans les barrages hydroélectriques, soit la plus grande émission d'obligations vertes en Afrique. Monsieur Daouda a dit qu'il s'agira d'abord de finaliser la vente de 90 millions de crédits carbone et d'attendre de meilleures conditions de marché avant de lancer l'émission. La multinationale Mondelez a annoncé qu'elle va mettre en place le programme Cocoa Life de 600 millions de dollars pour accroître les revenus des producteurs de cacao. Le géant américain de l'agroalimentaire veut porter le nombre d'agriculteurs qu'il soutient de 200 000 à 300 000 d'ici 2030. La Côte d'Ivoire et le Ghana boycottent le sommet de la Fondation mondiale du cacao qui se tient actuellement à Bruxelles pour dénoncer le programme de cacao durable qui, selon eux, empêche l'accroissement de revenus des planteurs de cacao. L'irrigation, facteur de production agricole, est le thème du 9e Salon international de l'agriculture et l'agroalimentaire de Lomé au Togo, qui se déroule sur plusieurs jours jusqu'au 2 novembre. Le thème de cette année s'inscrit dans le contexte du changement climatique, générant de nouveaux défis pour les producteurs agricoles du continent, qui subissent la progression des zones de sécheresse et d'inondation. Une quinzaine de pays africains participent à cette rencontre.
Merci Nathé. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Fin des tests Covid avant le départ pour le Mondial 2022 au Qatar.
Oui, les tests Covid pour entrer au Qatar ne seront plus obligatoires avant le voyage pour les visiteurs à partir du 1er novembre. À 20 jours du début de la Coupe du monde de football, l'annonce a été faite par le ministère de la Santé publique. Prévu du 20 novembre au 18 décembre, le Mondial 2022 est le premier événement sportif mondial majeur ouvert au public depuis le début de la pandémie en 2020. Plus d'un million de spectateurs sont attendus dans le petit émirat du Golfe.
Ligue des champions hier en Europe.
En difficulté cette saison, Liverpool s'est épargné quelques sueurs froides en allant gagner avec autorité 3-0, dont un but de l'Égyptien Mohamed Salah sur le terrain de l'Ajax Amsterdam. Les Reds sont qualifiés pour les huitièmes de finale pour la sixième année consécutive. Naples a encore impressionné contre les Rangers de Glasgow, 3-0. L'Atlético Madrid peut se mordre les doigts après sa rencontre contre le Bayer Leverkusen, 2-2. La Catalogne espérait un miracle, il n'a pas eu lieu. Le Bayern Munich a battu le Barça 3-0 avec des buts de Sadio Mané et Éric-Maxime Choupo-Moting. Conséquence, la victoire de l'Inter Milan devant le Plzeň 4-0 fige à la troisième place des Catalans reversée en Ligue Europa. Francfort s'est de son côté relancé en dominant l'OM 2-1.
La justice russe rejette l'appel de Brittany Griner.
La basketteuse américaine avait demandé que soit réduite sa peine traumatisante selon elle, sur fond de fortes tensions entre Washington et Moscou. Pour rappel, Brittany Griner a été condamnée en Russie à 9 ans de prison pour trafic de cannabis. Le tribunal a décidé de laisser sans changement le verdict rendu en août dernier contre la star américaine. Un seul assouplissement par rapport à la peine initiale. Chaque jour passé en détention avant sa condamnation sera comptabilisé comme un jour et demi et déduit du total de la peine à purger. Pour Ned Price, porte-parole du département d'État américain, c'est une déception.
Aujourd'hui est un autre triste jour pour la justice en Russie. Et nous utilisons ce terme de justice au sens large, car il n'y a pas eu de justice dans cette affaire. Il n'y a pas eu d'état de droit dans cette affaire. Ce processus, pour le dire simplement, a été une imposture. Le rejet de l'appel de Brittany Griner est un autre déni de justice qui ne fait qu'aggraver l'injustice initiale de sa détention.
Ned Price, porte-parole du département d'État américain.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela fait de la sécurisation du territoire national l'objectif prioritaire de son gouvernement. Le Burkina Faso, on le sait, est touché par des violences djihadistes depuis 7 ans. Aussi, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela parle-t-il d'un gouvernement de combat ayant, selon lui, 3 objectifs. La sécurisation du territoire, l'amélioration de la qualité de vie des Burkinabés et enfin l'amélioration de la gouvernance. Pour une analyse, Mohamedou Houmfa a joint Ali Tunkara, analyste politique et chercheur au Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel.
Quand on regarde les hommes et les femmes qui composent ce nouveau gouvernement, au regard de leur profil et surtout la limitation d'une présence militaire au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale, sont entre autres des aspects qui laissent entendre que le capitaine Traoré est audible aux différentes souffrances auxquelles les Burkinabés font l'objet en termes de lutte contre les groupes radicaux violents. Donc, en somme, cette nouvelle équipe gouvernementale correspond en tout point aux attentes qu'aurait un nombre important de Burkinabés vis-à-vis de la transition.
On a constaté que cette semaine, les autorités burkinabées ont lancé un recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils qui vont donc renforcer les rangs de l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce recrutement au sein des populations civiles peu outillés, voire pas du tout outillés à faire face à une telle menace terroriste, est un témoignage éloquent du manque d'effectifs que souffrirait l'armée burkinabé. Mais dans le même temps, c'est quand même aussi en partie un aveu de l'armée. On sait pertinemment que dans les histoires contemporaines de la lutte contre les groupes radicaux violents, qu'on soit avec les milices d'autodéfense, qu'on soit avec des acteurs privés de société et de sécurité, j'allais dire, ces acteurs privés n'ont en aucun endroit parvenu à mettre un terme à l'expansion de l'offre terroriste. Donc, pour dire que recourir à des populations civiles pour combler le vide sécuritaire, du point de vue analytique, une telle initiative est loin d'être pertinente, est loin d'être efficace pour qui connaît aujourd'hui l'ampleur, la complexité même de la menace terroriste.
Les autorités de transition n'ont donc une vingtaine de mois pour mener à bien cette transition-là. Quels sont selon vous les actes forts et pertinents que pourraient poser les autorités actuelles pour mener efficacement cette lutte contre le terrorisme?
Très rapidement, ce qu'on attend des autorités de la transition, c'est de faciliter l'acquisition d'un certain nombre d'équipements, notamment les moyens aériens, par l'armée burkinabé, vraiment dans un avis très court terme.
Ali Tunkara, analyste politique et chercheur au Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Des sécheresses plus fréquentes et plus graves entravent la production alimentaire en Afrique, en particulier dans les régions arides du continent, où les agriculteurs luttent pour gagner leur vie. Un système de rétention d'eau mis au point ici aux États-Unis aide les agriculteurs africains à lutter contre cette tendance et à améliorer le rendement des cultures. De Kipwezi au Kenya, un reportage de Juma Majanga, le récit est de Rosine Munezero.
Sous le soleil brûlant du village d'Ulilinzi, dans le sud-est du Kenya, les agriculteurs se livrent à des préparations de terrain uniques. Ils installent dans le sol des membranes en polyéthylène spécialement conçues qui ressemblent à des couvertures transparentes pour empêcher la perte d'humidité et de nutriments du sol. Exacerbé par la sécheresse due au changement climatique, le sol sablonneux de cette région, comme dans la plupart des zones arides et semi-arides, a rendu presque impossible la production de cultures abondantes. Cependant, cette nouvelle technologie de rétention d'eau développée aux États-Unis donne un nouvel espoir aux agriculteurs de cette région. Alvin Smirker, professeur de biophysique des sols à l'Université d'État du Michigan, a développé cette technologie.
Nous avons eu beaucoup de financement gouvernemental, allant dans les millions et les millions de dollars pour mettre tous ces systèmes ensemble. Et puis on a fait des tests au Texas, en Arizona, en Californie et au Michigan. Et il y a les quatre universités qui ont travaillé avec nous. Donc ce n'est pas quelque chose que nous avons simplement mis dans un petit conteneur dans le jardin, mon jardin. Et maintenant nous disons que c'est le meilleur au monde. Il a été testé.
Shem Kouya, chercheur à l'Université d'agriculture et de technologie Jomo Kenyatta, est l'un des scientifiques qui dirige les essais de cette technologie au Kenya.
Nous avons testé la technologie des Niébé. Nous avons également testé la technologie avec le maïs et nous avons réalisé que les fermes où nous avions installé ces membranes étaient plus productives.
La technologie a jusqu'à présent été testée au Zimbabwe et au Kenya et reçoit de bonnes critiques. Florence Mouticia, une agricultrice du village d'Ulilinzi, a déployé la technologie dans sa ferme.
Lorsque la technologie est arrivée, j'ai été formée sur la façon de rendre fertile ma ferme au sol sablonneux. J'ai vu les avantages et je l'ai déployée dans ma ferme. Et je peux dire que cette technologie fonctionne très bien car maintenant, j'obtiens une bonne récolte.
À quelques mètres de là, Anne Mutunga récolte des choux frisés dans sa ferme.
Cette technologie est très bonne. Je peux dire qu'elle est bonne car lorsqu'elle a été utilisée dans ma ferme pour des essais, j'ai récolté beaucoup de maïs. Même maintenant, nous sommes très heureux parce que, comme vous pouvez le voir, nous avons des légumes que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs dans le coin, dit-elle en souriant.
Le centre, l'un des principaux inconvénients de cette nouvelle technologie de rétention d'eau est son coût élevé et la main-d'œuvre qu'elle implique. Il faut compter entre 1250 et 2000 dollars américains pour acheter les membranes spécialisées permettant de couvrir un hectare de terrain. Le défi consiste maintenant à rendre cette technologie accessible aux agriculteurs des régions éloignées qui en ont le plus besoin.
Les écoles ont rouvert au Soudan, mais de nombreux élèves sont contraints d'abandonner les cours du fait des difficultés financières des familles liées à la flambée des prix. Le risque de déscolarisation s'accentue dans ce pays en proie à l'instabilité politique, aux sécheresses, à la faim et aux conflits. La situation devient intenable pour parents et enfants, dit Lidiko.
C'est la rentrée scolaire, mais Zara Hussein, 9 ans, s'occupe des tâches ménagères dans son petit village d'Ed Moussa, dans l'état oriental de Kassala. Comme des millions d'enfants soudanais, elle a dû quitter l'école car ses parents ne pouvaient pas payer ses frais de scolarité.
Dans les régions rurales, nous avons des familles composées de 3, 6 ou 9 personnes. Un père ne peut pas supporter financièrement tout cela et les écoles sont loin. Le père, s'il a 5 enfants, doit fournir un petit déjeuner, des cahiers et toutes les fournitures. Il ne peut pas se le permettre. En conséquence, certains enfants décrochent du système scolaire, ce qui allège la charge du père parce que les enfants sont disponibles pour l'aider. La principale raison de l'abandon scolaire est l'extrême pauvreté dans les zones rurales. Je tiens à souligner que la fourniture de repas scolaires a contribué à leur stabilité.
Dans le village voisin, Awad Sharifai, les cantines scolaires ont fermé il y a 2 ans, alors qu'elle assurait souvent l'unique repas des enfants dans la journée. Depuis lors, Othman Aboubakr, un père de famille, a dû déscolariser 7 de ses 9 enfants.
Tout est une question des conditions de vie. Si nous les laissions tous aller à l'école, alors que nous avons une grande famille, je ne pourrais pas subvenir aux besoins de la famille.
Au Soudan, 7 millions d'enfants ne vont pas à l'école, particulièrement dans les zones rurales où vivent près des 2/3 des 45 millions d'habitants. À 43 ans, Ohaj Suleiman voudrait que tous ses enfants soient scolarisés.
Les mettre au travail n'est pas bon. Pour l'avenir, rien ne vaut l'éducation, mais on est obligé de les faire travailler pour pouvoir au moins leur apporter de la nourriture au quotidien. Mais si nous pouvons nous permettre de leur donner une éducation, nous le ferons toujours.
La crise économique, l'instabilité politique, les conflits ethniques récurrents, de même que la famine et les fermetures prolongées des écoles, du fait de la pandémie de Covid-19, n'ont fait qu'aggraver la situation. Les pluies diluviennes ont endommagé cet été quelques 600 établissements scolaires. Mais Setana Awad, une enseignante d'Ed Moussa, espère que cette rentrée sera différente.
Nous espérons qu'il n'y aura pas de grève afin que nous puissions continuer à dispenser des cours. Espérons que ce sera une bonne année scolaire.
Le Soudan, qui compte 12,4 millions d'élèves, arrive à la deuxième place des pays dont le système scolaire est le plus fragile. Les filles soudanaises sont encore plus vulnérables face à la déscolarisation. Et selon l'ONG Save the Children, à 10 ans, 7 enfants soudanais sur 10 sont incapables de lire et de comprendre une phrase simple. L'urgence se fait donc sentir.
Il s'agit d'un grand hommage à l'un des grands noms de la musique africaine, Fela Kuti, connu pour l'afrobeat et ses prises de position très courageuses sur des thèmes sociopolitiques de son époque. Il est honoré dans une exposition organisée par la Philharmonie de Paris. Ginny Niwa nous en dit plus.
Fela, qui a énormément tourné en France dans les années 80, eut sa première affiche en 1981 à l'hippodrome de Pantin, entouré de ses premiers managers qui étaient français, Martin Messonnier et Francis Kurtekian. Non loin de là se trouve la Philharmonie de Paris qui aujourd'hui rend hommage à l'artiste et son afrobeat qui connaît un succès aux quatre coins du globe.
Alors la musique de Fela est omniprésente à travers le monde. On a évidemment de très nombreux groupes d'afrobeat qui continuent à réactiver la musique de Fela au Nigeria, mais aussi en Europe, au Brésil, au Japon. C'est ce qu'on montre dans l'exposition, le caractère global aujourd'hui du son de l'afrobeat. Mais les rythmes que Fela a inventés sont également repris par des rappeurs, par des musiciens de pop musique. Donc ce son est vraiment très très fort.
Souvent surnommé la voix des sans-voix, Fela n'hésitait pas à dénoncer la corruption des élites, raconte son fils Femi Kuti, 60 ans, devenu également musicien.
Il voyait sa musique comme une force, une arme pour passer ce message très important contre l'autorité, contre la colonisation, contre les gouvernements africains corrompus. Donc c'était une arme pour lui, oui.
Le chanteur était propriétaire de sa propre boîte de nuit, le Shrine, qui fut le lieu de concerts enflammés, mais également le lieu pour faire passer ses messages anticolonialistes. En 1970, Fela refuse de participer au Festac, festival officiel, et organise son contre-festival au Shrine, où se presseront Stevie Wonder, Gilberto Gil ou Caetano Veloso.
Ils sont tous venus. La nuit grouillait de tous ces Africains, Américains, Noirs, Anglais, Jamaïcains. Tout le monde était au Shrine. Alors le gouvernement s'est mis très en colère. Et c'est à ce moment-là que cet Américain vient dire à Fela, le gouvernement veut te tuer. Alors s'il te plaît, fais très attention. Fela a pensé que c'était ridicule, n'y a pas cru. Aussitôt, le festac s'est terminé, il y a eu un incendie de la maison. That was the burning
of the house. L'exposition met aussi en lumière ses costumes visibles pour la première fois en dehors du Nigeria et les femmes qui l'ont entouré et inspiré, comme sa mère activiste féministe, Fumilayo Ransome Kuti. Des éléments biographiques sur les Queens, les danseuses de Fela, permettent d'échapper à l'image d'une troupe anonyme et sexualisée à laquelle on les a trop souvent réduites. Décédé en 1987, Fela Kuti trouve toujours un écho aujourd'hui chez les pionniers du hip-hop et même dans le rock.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com. et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures.